Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour un épisode spécial qui tombe à l'improviste sur votre flux RSS, sur votre application de podcast préférée. Un épisode 537, un peu plus court mais exceptionnel puisque nous sommes avec Victor Roulier, tout juste revenu de Munich. Bonjour Victor.
Guten Tag.
Oui, j'allais dire, tu as encore des miettes de bretzel dans la moustache.
Ah bah oui, mais bon. Épisode exceptionnel, comme tu dis.
Épisode exceptionnel, alors suggéré par Victor, qui a eu tout à fait raison, parce que dans le fauteuil, je vais te dire, j'ai dit aux gens, ah, le résumé de Munich, vous l'aurez sûrement dans l'émission qui sera en ligne mercredi matin, je sais pas si ce sera dans les affiches et tout ça, et Victor a dit, non, moi je veux être la vedette, donne-moi une émission à moi tout seul, c'est quoi ce truc, déjà que je suis que dans les previews et que les autres se tapent les résumés. Donc Victor a dit, on va se faire un débrief spécial Munich. Et c'est vrai que t'as raison, parce que c'était quand même un truc assez spécial. On a eu beaucoup, beaucoup de Londres. On est gâté hein, depuis des années. La NFL vient à Londres. Elle est venue jusqu'à 4 fois par an à Londres. Mais Munich, c'était une grande première. C'était entre les Buccaneers et les Seahawks. Tu étais sur place pour TD Actu. On va parler du match, mais on va d'abord parler de l'ambiance. Est-ce que c'était différent d'un match à Londres? Je ne sais pas si toi, tu as pu avoir ces retours-là sur place. Mais en tout cas, moi, j'ai écouté pas mal d'émissions américaines en fait, ces dernières heures. Et ils étaient, mais tous, subjugués. Tom Brady a été dit tyrambique aussi en disant que c'était une des plus grandes expériences de sa carrière. Voilà. Est-ce que c'était si différent que ça d'un match à Londres, du coup?
Ben, je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais oui, en fait. C'est-à-dire que j'en ai fait beaucoup à Londres. C'est une bonne ambiance, il n'y a rien à dire. Hein. C'est Londres, c'est très bien et tout. Mais il y avait une sorte de fraternité, de bonne ambiance générale qui était assez folle. C'est-à-dire que le match était à 15h30. Les animations étaient censées commencer à 13h30. Avec Tristan, tu vois, on arrive à 11h autour du stade en se disant on va aller récupérer nos accrètes, tranquille, on va poser nos affaires et tout. On est arrivé à 11h, t'avais des dizaines de milliers de personnes qui étaient déjà en train de faire la fête, quoi. Et c'était vraiment assez fou. Et en fait, j'ai l'impression, comme c'était la première, les organisateurs ont aussi laissé... c'était moins strict qu'à Londres. C'était quand même un peu plus... faites un peu comme vous voulez. Tu vois, il y avait une sorte de vraie bonne ambiance. D'ailleurs, qui était avant et après le match, puisqu'ils ont passé la red zone derrière sur une sorte d'écran géant, en une fan zone, un peu comme tu peux voir dans les Coupes du Monde ou quoi. Et ouais, dans le stade, en fait... T'avais vraiment l'impression que tout le monde était là pour chanter ensemble. Et c'est vrai que moi, j'étais dans la salle des interviews des Buccaneers. Et ça a été dit par Brady, ça a été dit par Devin White. À la fin, tu savais plus qui supportait qui ou quoi. C'était juste une sorte de grande fête du football. Et c'est vrai que ouais, c'était une ambiance assez folle. Et en plus, Munich, je pense, un dernier truc qui rajoute un peu, c'est que Munich, c'est quand même beaucoup plus petit le centre que Londres. Et en fait, vraiment, les fans samedi et dimanche étaient tous ensemble, quoi. Les bars, c'était que des fans de foot américain partout. Et du coup, tout le monde parlait avec tout le monde. Non, c'était vraiment une bonne ambiance.
T'as parlé de beaucoup de choses. Je vais revenir sur le stade. Ce qu'ils disaient, notamment Brady et les autres, c'était notamment les chants à la fin qui les ont beaucoup impressionnés. Si j'ai bien compris, ils ont chanté Country Road, Take Me Home.
De John Denver.
Voilà, de qui était cette chanson, merci. Et Sweet Caroline, je crois,
c'est
si
ça.
J'ai bien compris.
C'est les deux qui les ont. En fait, les mecs, ils ont dit, mais comment est-ce que vous pouvez connaître Country Road, Take Me Home et Sweet Caroline? Après, je pense qu'il y a aussi que quand t'es fan de foot américain, parfois tu regardes un peu d'université, c'est un peu les deux chants de ralliement qu'on entend beaucoup, qui sont un peu caractéristiques, mais bon, il n'empêche alors, que tout le monde les connaissait.
Je crois que Country Road, Take Me Home, c'est un des chants préférés de l'Octoberfest. J'ai
appris oui,
ça.
C'est
apparemment,
bien possible.
C'est très chanté à l'Octoberfest, donc ça a dû aussi...
Mais moi, je dois t'avouer que je me suis laissé emporter. Pour le coup.
Très bien, non mais
comme
voilà.
Tout donc, le stade, c'était assez fou, ouais.
Et est-ce que c'est vrai que tout le monde est resté, même après le coup de sifflet final? C'est un des trucs aussi qui a été beaucoup
répété. C'était dingue. C'est-à-dire que nous, on a eu le temps de descendre, d'aller faire les conférences de presse. Autant vous dire que les joueurs, ils n'arrivent pas tout de suite quand même. Il y a une certaine latence, tu vois. On a fait les conférences de presse avec 5, 6 joueurs. On est revenu, on a mangé un bout, on est reparti. Il y avait encore la moitié du stade qui était là, quoi. C'était assez impressionnant, ouais.
Ouais, donc ça explique encore une fois ce sentiment et ces retours, parce que encore une fois parce qu'ils ont toujours ce truc, que ce soit les joueurs, que ce soit les journalistes US, notamment quand tu regardes NFL Network et tout, il y a toujours cette politesse de dire à Londres à chaque fois c'était très bien machin et tout, mais là tu sentais que vraiment ils avaient vraiment un truc au-dessus, quoi. Ça allait au-delà de la politesse habituelle, donc ça s'est traduit clairement dans le stade pour toi. Et l'Allianz Arena en elle-même, le stade, je sais plus, il fait 60 000 places, quelque chose comme ça. Je sais pas comment te dire ça, mais est-ce que c'est un beau stade? Voilà, c'est ça que je vais en arriver là.
Il est beau, il est pas incroyable, notamment à zone presse, par exemple, c'est un peu ce que tu vois à Wembley, si tu veux. Mais par contre, le reste du stade est vraiment beau et il est bruyant. Il est vraiment, tu sens que ça a été réfléchi au niveau de la sono, c'est-à-dire que le bruit, il n'est pas assourdissant, mais il est prenant, quoi. C'est pas comme le Stade de France où tu as l'impression que le bruit s'évapore dans le ciel, tu vois. Là, le bruit, il te revient dans la tête et tu le sens vraiment, quoi.
Je pensais, par rapport à, pour revenir sur les chansons, Sweet Caroline, machin et tout, je pense que les Allemands sont quand même peut-être beaucoup plus imprégnés de culture américaine aussi, de par l'histoire, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de bases américaines en Allemagne jusqu'à il y a peu de temps, finalement, à l'échelle historique.
Ouais, après, moi je te dis, personnellement, par exemple, c'est des chansons que je connaissais aussi, peut-être que, surtout Sweet Caroline, c'est peut-être plus connu, le fameux pop, 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 c'est, les gens connaissent peut-être un peu plus, mais non, encore une fois, ouais, c'est, je sais pas, c'est, les gens étaient bien, et alors Bruce Irvin, qui est un ancien de West Virginia, il était en train de perdre, et pourtant il dansait avec les fans, il haranguait les fans pour qu'ils continuent à chanter, non, c'était vraiment assez marrant.
Bon, donc expérience super pour tous. La ville, tu l'as évoqué, Munich, plus petit centre-ville. Ça fait partie du voyage, donc c'est intéressant aussi. Est-ce que c'est une ville sympa? Je t'avoue que je ne connais pas du tout. On a fait Londres. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont fait Londres, même dans nos auditeurs. Maintenant, il y a beaucoup de choses à visiter à Londres. C'est une immense ville, c'est une ville mondiale. Munich, ça ressemble à quoi?
Écoute, ça ressemble à une... C'est une jolie ville. Un joli centre-ville assez... Pas médiéval, mais on va dire assez, qui est resté dans une vraie empreinte bavaroise, donc vraiment une architecture intéressante. C'est assez petit, le centre-ville est même très petit. La seule chose, le petit bémol de ce week-end, si je peux me permettre, c'est que le samedi, il n'y avait vraiment rien en animation, quoi. En gros, ils ont mis 32 casques sur une place où tu pouvais faire des photos, ils ont mis une sorte de petit mobilhome en guise de NFL Shop et il n'y avait rien d'autre.
Munich, c'est 1,4 million d'habitants contre Londres, 9 millions. Hein. Je situe un peu à nos auditeurs. Mais c'est bien, ça donne une expérience aussi différente à l'Europe parce que tu n'es pas forcément obligé d'aller dans une énorme ville. On rappelle d'ailleurs que l'an prochain, ce sera Francfort hein, pour la NFL en Allemagne. Donc, ce sera encore plus petit.
Je ne suis pas sûr. Hein.
Écoute, officiellement, 753 000. Donc, moitié moins même que Munich pour la ville.
Mais qui est un carrefour économique. À mon avis, il y aura quand même beaucoup de monde qui va venir de beaucoup d'endroits. Mais...
C'est vrai. Je termine avec la question habituelle, évidemment. Est-ce qu'on a bien mangé?
Au restaurant, oui, le samedi et dimanche soir. Au stade, non. C'était clairement pas bon.
J'ai vu les photos que vous avez mis de la bouffe de Tribune de Presse. Il y avait un énorme bretzel posé sur des pâtes qui baignaient dans une sauce chelou là. C'était quoi la sauce?
Une sauce pumpkin.
Pumpkin.
Mais c'était pas terrible. Ouais.
Ça n'avait pas l'air. Bon, t'as vu de la star un peu du coup? J'ai vu qu'il y avait du footo dans tous les sens hein, sur Twitter.
Ah bah moi, alors je vais te dire en fait, si tu veux NFL Network. Alors il faut savoir qu'il y a pas de séparation entre la presse et les vraies tribunes. Donc, tu peux descendre, voyager, enfin, il n'y a aucune séparation.
C'est pas le cas à Londres et c'est pas le cas à Tottenham, je crois.
À Wembley, si tu es dans la press box, pour moi, tu ne peux pas descendre. Il y a une barrière.
Oui, c'est ça. Wembley, sûr, t'es à part. Et Tottenham, j'ai pas Tottenham fait, aussi.
Mais là, donc, là c'est vraiment les gens, en fait, pour aller chercher leur bouffe, te passent à côté de toi. Enfin, c'est vraiment, tout est ouvert. Et
si
en fait...
Je suis mauvaise langue, si tu fais ça en France, je suis pas sûr que tu gardes ton ordinateur portable.
Ouais, je sais pas.
Parce que dans les tribunes de presse en Angleterre, moi je sais que souvent tu laisses tes affaires et tu vas aux toilettes. Ou
tu laissais pas tes affaires parce qu'il y avait trop de monde qui passait. Et du coup, en fait, juste en dessous de nous, c'était NFL Network qui était là, donc avec Joe Thomas, qui est méconnaissable parce qu'il est mince comme pas possible, Willie McGuinness et Colleen Wolfe. Donc, elle est la présentatrice, une des deux présentatrices vedettes de la NFL.
Et bah, c'est elle que j'ai entendu d'ailleurs s'ébahir devant l'ambiance.
Ouais, mais ça m'étonne pas. Il y avait Roger Goodell, qui était juste devant nous et qui nous a même. Qui a été très friendly avec les fans. Enfin, il a fait des petits coucous, il a serré des mains.
Sympa.
Et après, on a vu passer. Pour les fans de foot, si je me souviens bien, je suis nul à ça. Il y avait Thomas Müller, Oliver Kahn,
Kingsley Coman, j'ai vu aussi le français.
Kingsley Coman, Antoine Griezmann, qui était là, notre président d'honneur de la Grizz League. Il y avait pas mal de footballeurs, notamment des Bavarois ou anciens Bavarois.
Oui, on rappelle, c'est le stade du Bayern de Munich, hein, l'Allianz Arena, donc Kingsley Coman, Thomas Müller, Oliver Kahn, tout ça, c'est estampillé Bayern de Munich, donc ils étaient à domicile. Hein. On va parler un petit peu du match, Victor, quand même, ça a joué sur le terrain, Buccaneers 21, Seahawks 16, les Buccaneers qui menaient 21-3 dans le dernier quart, donc il n'y a pas vraiment eu de suspense, ils équilibrent leur bilan, il y a un peu de changement dans le style quand même, non? Est-ce que c'est le jeu au sol pour toi ou la défense qui sont le plus significatif sur cette rencontre?
Alors, il y a eu un peu plus de matchs que tu ne veux bien dire, parce que je peux te jurer qu'à 21-16, on y a cru au retour.
Ah, vous étiez tendu, ok.
Ah ouais, je peux te dire qu'à 21-16, même les mecs autour de nous, non, il y avait une vraie pression. Après, c'est vrai que pendant trois quarts temps, il n'y a pas eu vraiment de match, et si les Buccaneers n'avaient pas fait des bêtises comme la passe de Leonard Fournette, bah, ils auraient déjà gagné le match avant, mais bon. Pour répondre à ta question... La défense, elle a été excellente, mais c'est pas la première fois qu'on le voit cette saison. La défense, globalement, elle a été bonne à peu près toute la saison. Ce qui a fait la différence, c'est que le jeu de course est venu suppléer Brady. Brady qui a fait son meilleur match de la saison, à part une interception dégueulasse, il fait franchement un match magnifique. Et c'est sûr que quand la défense est obligée de respecter la course, bah, ça t'ouvre des espaces. Et on a vu du Leonard Fournette, on a surtout vu du Rachaad White, qui s'est exprimé enfin dans un style qu'on lui a connu en université, beaucoup plus virevoltant que Fournette. Hein. C'est des courses un peu plus extérieures où il est capable de faire des cuts et des choses comme ça, alors que Fournette, c'était un peu plus physique, hein, comme on peut le voir souvent avec lui. Fournette qui est d'ailleurs sorti dans le troisième carton. Mais c'est sûr que, enfin, il y avait cette impression qu'on a quand même pas souvent chez Tampa Bay. C'est qu'on se disait, mais ils vont continuer à courir et ça va passer. Et ça continue à passer encore et encore. Et la ligne offensive, qui est quand même pas exemple de blessures et de reproches depuis le début de la saison, a vraiment tenu le coup. Enfin, ils ouvraient des boulevards. Hein.
Je suis content parce que justement, je maintiens ce que je disais, qu'il y a de l'espoir pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des solutions à trouver, il y a un bon esprit. Tu disais, Brady est quand même dedans. Il a souri sur ce match, il a eu les problèmes qu'on sait en début de saison, personnellement, divorce, etc. Peut-être que là, il commence aussi à se libérer un petit peu, mais tu le disais, il fait un super match. Alors évidemment, pour la postérité, on va retenir ce trick play où il passe receveur, où il se casse la binette et où du coup, ils sont interceptés.
En fait, ce qui se passe...
Ça a fait rire dans le stade ou pas, ça, d'ailleurs?
Alors, en fait, je t'explique ce qui se passe. C'est que trois actions avant... Fournette est déjà en wildcat. Et ils ont littéralement mis personne sur Brady. Personne du côté de Brady. Brady était seul. Et on s'est tous demandé dans le salle, mais pourquoi il n'a pas lancé à Brady? Parce que Brady avait littéralement 30 yards seul devant lui. Et je pense qu'ils se sont dit, ils vont refaire pareil, sauf qu'ils n'ont pas été bêtes et qu'ils n'ont pas refait pareil. Ouais, tout le monde s'est pris la tête en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Parce qu'en plus, ils menaient 14-3, ils pouvaient tuer le match, ils venaient d'avancer tout le terrain, mais tranquille. Tout le monde pensait qu'ils allaient tuer le match. Et là, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'ils foutent?
C'est quand même méga audacieux d'envoyer un quarterback de 45 ans sur une position de receveur et de lui envoyer la balle.
Surtout qu'il y a 5 ans, on a vu au Super Bowl qu'il ne savait déjà pas les capter.
Mais oui, bon. Non mais ça, c'est un délire. Bon, en tout cas, tu le disais, gros jeu au sol, grosse défense, 161 yards au sol pour eux, 10 sur 15 sur 3ème tentative, 2 sur 3 dans la end zone, donc ils ont quand même été relativement très efficaces. Ils sont à la relance, ils sont à 5 victoires, 5 défaites, donc ils sont bien dans la course au playoff en NFC. Du côté des Seahawks, le jeu au sol n'a pas existé, 39 yards. Là, clairement, c'est l'œuvre aussi quand même du boulot de la défense des Buccaneers. Devin White a été très bon, 9 plaquages de sac. Mais est-ce qu'on s'inquiète vraiment pour les Seahawks? Parce que oui, cette première mi-temps est très moche, où on a l'impression qu'ils ne jouent pas. Même Pete Carroll, à la mi-temps, lors de son interview, dit « Bon, bah, j'espère qu'on va commencer le match en revenant. » Mais ils tombent sur très fort en défense, et surtout, Geno Smith n'est pas du tout catastrophique. Il est même très solide.
Bah, moi, j'ai aucun problème à parler de défaite encourageante. C'est-à-dire que tu parlais, enfin, ça va faire le lien, mais tu disais c'est Buccaneers, s'il y a d'espoir. Moi, je suis sorti de ce match en tant que fan d'une équipe rivale d'NFC. Je me suis dit, c'est Buccaneers là. J'ai pas envie de les prendre en play-off.
Les Buccaneers ou les Seahawks, là, tu me parles?
Non, mais les Buccaneers. Et du coup, les Seahawks en face, bah, honnêtement, oui, ils ont loupé leur première mi-temps. Ok, comme ça arrive dans une saison, ils ont déjoué, Geno Smith n'était pas inspiré, son pocket management n'était pas bon, il fait un fumble qui n'est pas bon, le jeu de course ne marche pas, etc. Ils sont arrivés en deuxième mi-temps complètement transfigurés, ils ont joué leur jeu, il a diversifié avec des bootlegs et des play-action sur les tight ends, avec une surutilisation de Metcalf qui réussissait bien, une utilisation de Goodwin, de Lockett pour rendre l'attaque incertaine, et franchement... oui, ils nous ont offert un match à la fin parce qu'ils marquent deux touchdowns coup sur coup pour revenir à 21-16. Et si les Buccaneers se rendent à balle, il y a encore deux minutes ou trois minutes pour aller marquer le touchdown de la victoire. Donc non, je trouve qu'ils ont été... Ok, ils ont loupé une mi-temps, ça c'est vrai. Mais ils ont montré en deuxième mi-temps que c'est une vraie bonne équipe de football et que le bilan de 6-4 n'est pas galvaudé. Et qu'il faudra compter sur eux dans la course au play-off, surtout en NFC, jusqu'à la fin.
Non, mais je tenais à le dire parce que, tu sais, je pense que les Seahawks, ils font encore partie de ces équipes où autant il y en a, on leur donne un bénéfice du doute permanent à cause du coach ou du quarterback ou que ce soit, autant il y a des équipes où justement avec Geno Smith, tu vas tout de suite aller à des conclusions, ah ouais, ça y est, il retombe ou machin et tout. Alors que là, c'est pas du tout le cas. C'est une mauvaise première mi-temps, comme tu le disais, mais ça reste une équipe très solide et là, j'allais dire étonnamment, mais plus étonnamment, quoi. Ils continuent de confirmer leur bonne saison.
Et puis attends, leur calendrier à court terme, c'est Riders, Rams, Panthers. Donc tu vois, c'est 6-4, il peut très rapidement s'en sortir en 9-4. S'ils jouent à ce niveau-là, ils sont à 9-4.
Je termine quand même avec un petit mot parce que je crois que tu nous l'as dit en privé sur le chat de la rédaction. Je veux pas dire de bêtises, mais tu nous as dit je suis à quelques mètres de Tom Brady et ça me fait étrange.
Ouais, alors Tom Brady, faut savoir que j'ai détesté pendant des années parce qu'il m'avait privé du Super Bowl 2004 quand j'étais jeune. Comme beaucoup de monde, j'ai fini par apprécier l'idole au sens où, quand c'est le meilleur joueur de l'histoire de ton sport, t'es quand même obligé d'apprécier et de reconnaître la valeur du joueur. Peu importe ce qu'on pense de l'homme, mais le joueur, c'est quand même c'est le GOAT de notre sport, comme Gretzky, comme Jordan, LeBron ou d'autres joueurs comme ça, tu vois. Et quand même, je dois avouer que quand il est arrivé dans la tribune de presse, en plus, j'avais vraiment foncé jusqu'à la conf de presse, donc j'étais bien au milieu, bien devant, tu vois. Et là, je vois Tom Brady, c'est quand même Tom Brady qui est devant moi. Tu vois, le GOAT de notre sport, ouais, je dois t'avouer que ça m'a fait quelque chose. Je
voulais t'en faire parler parce que je comprends, en fait. Moi, pour l'avoir fait au Super Bowl où ils jouent les Seahawks, là, et tu sais, il y avait toutes les conférences de presse, donc là, pour le coup, on voyait tous les jours et tout. Et pareil, c'est un des joueurs dont je me souviens, en fait, quoi, du moment où tu le vois et tu te dis... ah ouais, c'est Tom Brady, il est pas loin de moi, quoi. Ça, c'est bizarre, quoi. Il y a un truc.
Ah ouais, ouais, non, mais en plus, on a fait Tom Brady et Julio Jones pour commencer, tu vois, deux petites légendes sympathiques.
Pas mal.
Et vraiment, non, mais je finis, quand tu disais Tom Brady était content, il était vraiment, il avait un sourire aux lèvres, pas le sourire que tu feintes en mode oh là là, tout est parfait, vous êtes beau, machin. Il a dit, c'est un des meilleurs moments de mon année, je me suis éclaté et tout. Il était vraiment heureux, quoi.
Ouais, non, clairement, ça semblait vraiment sincère. Hein, et oui, mais ça fait du bien de le voir sourire parce que le début de saison avait quand même été.
Ouais, on l'a pas souvent vu sourire au début de saison.
Donc ouais, ouais, non, quand même, c'était vraiment sympa. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup, Victor. Je te le dis, je suis extrêmement jaloux parce que j'aurais bien aimé être à Munich en vrai.
Tu seras à Francfort.
Ouais, ouais, peut-être. Tu vois, vous m'avez décidé. Je vais moins sur le terrain, mais là, vous m'avez un peu décidé. Pour être tout à fait sincère, je vais faire des révélations même dans l'équipe, ils savent pas certains, mais tu sais que quand ils ont annoncé Munich, au début, je m'étais dit, ouais, Munich, j'y vais, quoi. Tu vois, genre, c'est bon, j'y vais et tout. En fait, j'avais un autre reportage qui s'était calé en Allemagne, donc je m'étais dit, ouais, je vais déjà voyager, je vais pas aller à Munich, je vais pas doubler et tout. Et en fait, mon reportage s'est annulé entre temps.
Ah mince!
Et donc, du coup, bah voilà, pas ni reportage ni Munich. Et quand j'ai vu tous les trucs qui se passaient et tout, je me disais, ah, bon, je suis content pour eux, je suis content pour Victor et Tristan. T'as mentionné Tristan, hein, c'était Tristan Henry qui était avec toi pour TDA et Tiffany était là aussi pour les photos. Et j'ai été un peu jaloux pendant toute la journée de dimanche, je t'avoue. Je me disais, moi, j'aurais bien aimé voir l'Allianz Arena et Munich et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions parce que Roger Goodell l'a rappelé d'ailleurs. Il reste donc 3 matchs en Allemagne sur les 3 années à venir et il a dit qu'il serait pas étonné qu'il prolonge le bail assez rapidement. Clairement, on a vu les réactions de tout le monde. Je pense que, on va pas dire que c'est fait, hein, mais ça semble plutôt bien engagé
pour
l'NFL en Allemagne.
À long terme, le plus probable, c'est qu'ils finissent par toujours avoir 4 matchs en Europe, mais dans 4 villes différentes. Je pense que ceux qui vont perdre à long terme, c'est Londres, parce qu'ils n'auront pas 4 matchs ad vitam aeternam. On sait l'amour de la NFL pour Barcelone, on sait l'amour de la NFL pour Vienne. Voilà.
Attention à un truc, tu dis 4 matchs dans 4 villes différentes. Moi, je trouve qu'il serait capable d'étendre le nombre de matchs. Dis-toi qu'au début, rappelle-toi les matchs du jeudi, il n'y en avait que 5 ou 7 par saison. Et maintenant, on en a tous les jeudis.
Mais 4, c'est déjà beaucoup. Hein. À mon avis, les franchises ont gueulé.
S'ils seraient capables d'en mettre 6. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont mis de l'argent dans le stade de Tottenham. Donc celui-là, ils vont rester.
Ah oui, ça c'est obligatoire.
Voilà, Tottenham, ils ont mis 10 millions sur la table. Ils ont une pelouse spéciale en dessous, machin. Donc celui-là, ils vont rester.
Et puis Wembley, ça appartient au propriétaire de Jaguar, si je dis pas de bêtises. Non, il avait pas.
Non, il l'avait pas eu. Non, il avait voulu l'acheter, mais il avait fini par pas l'avoir. Donc, mais bon, il y a plein de possibilités. Je pense qu'on doit se réjouir parce que ça fait quand même des matchs sympas dans des belles ambiances et pas si loin que ça. En tout cas, moins loin de chez nous que New York ou Los Angeles. Donc c'est quand même toujours ça de prix et ça fait des belles expériences comme tu l'as raconté. Merci encore, Victor.
Ben merci à toi, merci à tous.
Fin de l'épisode 537, épisode spécial mis en ligne très rapidement dès le lundi soir. Et quel que soit le moment où vous nous écoutiez, en tout cas, mais on l'a mis au plus vite. Et on se retrouve très vite pour le débrief des affiches. Plein de podcasts, plein de podcasts cette semaine. Toute l'actu sur tdactu.com pour avoir tout ça. Et évidemment sur toutes les plateformes habituelles pour écouter l'émission. Merci encore Victor. À très bientôt à tous sur les antennes de TDA.
Les et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Crocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.